Dans la prochaine heure à Boulevard 101, Samuel Tremblay-Michaud va venir faire son tour chroniqueur automobile RPM et on va assurément prendre des questions d'auditeurs. Habituellement, j'ai même pas besoin d'en parler puis ça rentre, mais si jamais vous en avez, que ce soit pour un choix de véhicule futur, concernant celui que vous avez, concernant l'électrique, concernant n'importe quoi finalement, pointu ou pas, il va répondre à vos questions en direct tantôt. On va avoir une couple de sujets à jaser concernant l'actualité automobile également, mais sachez-le, les questions seront les bienvenues. Je vais faire encore un tour de ce qui se passe sur les routes parce que c'est encore difficile à certains endroits. Capitale-Est, dans le coin de Robert-Bourassa, c'est toujours aussi intense. Si vous êtes sur Robert-Bourassa, direction nord, entre Wilfrid-Amel et la capitale, très au rouge en ce moment. Si vous êtes sur Henri IV Sud, de Charest-au-Pont, ça démarre. Pas Duplessis Sud, c'est de Charest-au-Pont-la-Porte également. Et la 20, c'est un peu moins pire que c'était. Là. Dans le coin de Chemin des Îles, direction ouest, il y a encore un bon ralentissement à prévoir. Quelques problèmes dans le coin de Taniata aussi, mais ça s'est un peu déloadé, là, contrairement, mettons, au dernier jour. Évidemment, si vous avez des détails supplémentaires, c'est le 418-971-1021 texto. Il y a une chronique que j'apprécie particulièrement cet été jusqu'à maintenant, c'est quand on parle avec Antonine d'autre chose que politique. Pas que j'aime pas t'entendre parler de politique, Anto, on s'entend, mais t'as d'autres expertises que la politique. Puis on te peint beaucoup dans ce portrait-là à Boulevard
ben
parce
oui,
que...
J'adore ça!
Oui, t'as commencé en faisant de l'analyse politique avec nous à la ben base, oui. T'sais. Mais t'as quand même, je veux dire, une bonne expertise quand on parle des communications au sens large, la gestion de crise, les relations publiques. Puis on a décidé que t'allais faire une chronique, les comme d'Anto, on l'appelle comme ça.
Exact!
Parce que justement, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans des réflexions par rapport à ce qui peut toucher certains sujets sociaux. Parfois. Puis aujourd'hui, ça touche un peu ça, j'ai l'impression. Ça va peut-être vous froisser, vous aurez peut-être des choses à dire.
Ben
88-971-102, il y a toujours une question du jour aussi.
Ouais, je commence avec ça. Quand je parle de communication, je touche vraiment à tous les pans de communication, de la communication entre les humains, de la plus simple, dans les milieux de travail et tout ça. Et j'avais une question à vous poser. Audrey et Max, vous êtes plus jeunes que moi. Parler au téléphone sur speakerphone
oh
en public.
Dieu, ça m'insulte.
OK, bon, ben, tu me rassures, toi, Max?
J'ai tellement de la misère avec ça, là.
Attends, mais tu dis que tu as de la misère avec ça, mais tu t'envoies des messages vocaux sans arrêt à tout le monde d'un bureau, là.
C'est sûr, mais là, bureaux. Je vais défendre Audrey, je me fais l'avocate d'Audrey, j'entends pas les réponses. T'sais, tu comprends, quand tu parles au téléphone, je t'entends parler aussi.
J'avoue.
Donc,
puis,
ça vient
je suis au
toi-même.
Travail. Je bouge du monde, c'est ma job de faire de la com. Je suis dans les bureaux qui sont, soit dit en passant, air ouverte pour créer justement cet environnement.
Effectivement, mais
tu as raison, mais c'est pas la même chose, je pense.
Je trouve que c'est en augmentation. Je suis pas la seule à l'observer. Des gens qui sont dans l'autobus.
Dans l'autobus, moi, ça me... Puis je suis un bon consommateur de ride d'autobus, puis ça arrive relativement souvent. Là.
Selon tes observations, est-ce que c'est des plus jeunes adultes? C'est sûr que dans l'autobus, souvent, les gens sont un peu plus jeunes en moyenne d'âge. Et quel genre de monde qui parle sur speakerphone, au téléphone?
C'est culturel.
Il y a un aspect culturel
c'est
aussi.
C'est souvent culturel, j'ai l'impression. Que peut-être qu'à certains endroits du monde, c'est plus accepté. Puis là, on arrive ici. Puis
d'autres,
dans...
non. En passant, au Japon, là, tu parles même pas au téléphone.
Public?
Pas en speakerphone. Non, tu textes quand tu es en public. Et si ta sonnerie de
c'est
téléphone
privé.
Sonne, tout le monde te regarde extrêmement croche. Là, genre, honte à ta famille. Et,
c'est fou, hein, les deux. Puis je pense qu'ici, on est quand même dans une certaine balance et un équilibre par rapport à ça. Parce que tu peux avoir ton téléphone n'importe quand sans problème. Ça peut sonner. C'est pas insultant, ça va. Mais effectivement, il y a peut-être un aspect culturel. C'est vrai, mais ça se transmet, par exemple. Il y a des plus jeunes, beaucoup, qui vont le faire, probablement parce que certains amis vont le faire aussi. Mais moi, je remarque qu'il n'y a aucune gêne. Des fois, c'est des conversations longues, là.
Ah oui, il y en a que ça ne se casse pas pantoute.
Oui, puis même personnel, un peu, des fois.
Oui, puis c'est pas juste visuellement, là. T'sais, des fois, il y en a qui sont comme, mais oui, mais c'est un appel vidéo, tu sais. Mais des écouteurs, à la limite, là.
Absolument.
Mais c'est vraiment, je réponds et je mets sur haut-parleur.
Ouais, puis on commence à recevoir des messages. N'hésitez pas, vous, est-ce que vous faites ça ou est-ce qu'au contraire, ça vous insupporte? Là, il y a Caroline qui nous dit « Quelqu'un qui fait son épicerie au grand complet sur haut-parleur, vraiment très gossant. » Je suis un peu d'accord. Je me suis intéressée à pourquoi les gens faisaient ça. À votre avis, avez-vous des hypothèses? Pourquoi quelqu'un ne met pas le téléphone sur son oreille ou ne met pas ses écouteurs?
Bien, le main libre, là, j'imagine. Bien, là, tu vois, c'est ça, c'est ce qui vient gosser, c'est les écouteurs, parce que c'est possible de le faire avec des écouteurs, mais j'ai le sentiment qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile de continuer de faire leurs affaires puis de ne pas avoir à coincer le téléphone avec l'épaule puis d'être un peu pris, tu sais.
Bien, c'est la raison qui revient le plus souvent.
Ah ouais, hein?
C'est que les gens disent qu'ils veulent faire plusieurs choses en même temps.
Mais pas
donc,
en public, mettons.
Puis dans l'autobus,
ça.
Mais dans l'autobus, tu n'as rien à faire, là.
Non, c'est parce que.
C'est, mais c'est l'habitude qui se
on
prend.
On a tellement le cerveau habitué à être comme constamment surstimulé. Tu peux pas passer un appel de 10 minutes sans aller voir tes notifications, sans lire tes courriels, sans texter d'autres personnes. Donc, c'est le multitâche qui ajouterait ça, conjugué avec la paresse d'avoir tes écouteurs puis de les mettre, peut-être sont pas rechargés. Il y a des gens qui sont un petit peu plus dans la lune. Et une autre raison qu'on peut voir, c'est des gens qui aiment exposer leur vie en public. Il y a des gens qui se donnent en spectacle dans la vie là, et que c'est une façon un peu de se montrer intéressant, d'avoir des discussions en haut-parleur dans
les lieux publics. Mais tout le monde
s'en
fout.
Mais non seulement on s'en fout, mais on veut pas. On veut pas. Et une autre raison, il y a des gens qui disent que ça les fatigue de tenir leur téléphone à leur oreille. Donc, ils déposent, tu sais, par exemple, dans l'autobus, ils déposent leur téléphone sur leurs genoux et ont leur conversation comme celle-là. Donc, ça peut être un peu décourageant. Donc, cette habitude-là, il y a même des gens qui disent qu'on devrait légiférer là-dessus, interdire les speakerphones. Honnêtement, moi, à un moment donné, là, les lois pour tout régir, là, on ne peut pas le faire.
Dans ma tête,
donc, je pense qu'on peut
se
gérer nous-mêmes. T'sais.
C'est ça. Dans ma tête, c'est du savoir-vivre. Mais ça, tu vois, je suis tout le temps en train de crier à « faut le dire quand quelque chose nous dérange ». Mais ça, c'est, tu vois, un pan où je suis un peu plus gênée. Je n'oserais pas aller voir quelqu'un pour lui dire « hey, excuse, peux-tu mettre le téléphone sur ton horaire? » Ça tape ses nerfs à tout le monde. C'est ça, on dirait que je me sentirais... Ma limite est peut-être là, mais en même temps, faudrait que quelqu'un leur dise.
Ben, je pense qu'il faut
aux
le dire.
Gens qui
moi,
font
une
ça.
Une fois, j'étais au spa, je vous niaise pas, là. Au spa.
T'es censé être silencieux en passant?
Ouais, puis c'était pas un spa que. Tu sais, c'est un spa d'hôtel, donc il y a moins de surveillance un peu que, genre, dans un Siberia où les gens viennent t'avertir dès que, genre, tu dis un mot, là. Il y avait quelqu'un qui avait une conversation en main libre. Je t'annonce que j'y ai dit.
Ben, non, mais t'as bien. Read the room, Colin. Il y a des endroits, là.
Il y a quelqu'un qui nous écrit: j'étais sur mon balcon dimanche pour déjeuner, mon voisin d'en face parlait fort en main libre. Bon, avec il y a une précision dans quelle langue c'était le cas. Donc, je pense que ça tape particulièrement sur l'honneur d'à peu près tout le monde, mais je continue de voir une augmentation de ce phénomène-là.
Mais moi, je pense que ce qui me désole le plus, au-delà de ça nous tape ses nerfs, ça nous tape pas ses nerfs, c'est le savoir-vivre en société.
Mais ça,
moi, j'aime pas déranger dans la vie. Toi, t'aimes ça déranger? Je comprends pas. T'aimes ça te faire regarder croche? T'aimes ça rendre les gens inconfortables?
Ça dérange plus qu'un bébé qui braille, Max, mettons?
Non, vraiment pas.
Pour vrai, t'es sérieux?
Ben, dans le sens...
Le niveau de décibel n'est pas le même.
C'est ça. Au niveau... On prend strictement le bruit, là. Le bruit de quelqu'un qui parle au téléphone me dérange moins que le bruit d'un bébé qui braille. Mais je vais bien plus détester l'individu qui parle au téléphone que je peux détester le bébé, là. Je déteste pas les bébés dans mon temps libre, dans mes temps libres. Mais tu sais, tu parles de savoir-vivre. Ce qui me fascine le plus, c'est que ces gens-là, souvent, s'en rendent même pas compte. Ils sont tellement pas conscients de leur environnement que pour eux autres, ben, c'est bien normal. Puis oui,
je
même si ils se font regarder croche, ben, ils doivent se demander, voyons, pourquoi le monde me regarde croche.
C'est un lieu public.
T'as tellement raison. C'est unanime dans les textes. Okay, tout le monde trouve ça insupportable. Il y a quelqu'un qui faisait suite à mon histoire de spa pour dire que dans un spa d'hôtel, il y avait un couple à côté de lui qui ne parlait pas aux mains libres, mais disons, avait des activités peu appropriées pour...
Oh mon Dieu, Seigneur!
Donc ça, c'est pire, j'avoue.
Yes, Sylvie dit quelque chose d'intéressant. Je suis en condo, nous, on le fait ajouter au règlement de la copropriété. J'haïs pas ça, pas en tout.
Je pense que c'est une bonne idée, mais c'est fou qu'on soit obligé de faire ça.
C'est écrit dans les autobus, c'est écrit.
Ah, puis le monde s'en fout.
C'est écrit comme une coupe de place dans l'autobus, comme les règles de base. Puis une des grosses règles, c'est hey, on veut pas entendre ta conversation, c'est beau.
Train,
là.
Dans le train, c'est la même chose. Il y a un message qui est dit dans le micro, là, dans l'interphone du train au début. S'il vous plaît, mettez vos appareils en silencieux, portez des écouteurs pour faire vos appels. Et il y a toujours
quelqu'un qui s'en fout pareil.
Qui fait des grandes discussions, puis qu'on entend aussi les réponses. D'ailleurs, si vous voulez apprendre des choses confidentielles, aller dans le train. Okay? Moi, j'entends des conversations, des fois, notamment des fonctionnaires, beaucoup d'informations. Continuez de nous écrire. En attendant, moi, je voulais vous parler d'un autre sujet aujourd'hui, plus gestion de crise, relations publiques. C'est en lien avec quand une personnalité publique se fait annuler, se fait canceller.
Ouais.
Comment ça se fait qu'il y a certaines personnalités qui réussissent à revenir, à faire des comebacks en bon français, et qu'il y en a d'autres qui réussissent jamais un peu à se sortir de leur annulation? D'abord, juste définir un peu c'est quoi être annulé, là, pour qu'on parle, on sache de quoi on parle ici. C'est quand une personnalité publique fait face à une crise réputationnelle tellement importante que les gens, les médias, l'employeur, les commanditaires vont boycotter cette personne-là ou s'en dissocier. Donc, c'est quand on devient
Guillaume
tellement toxique...
Guillaume Lemaitre-Vierge, Julien Lacroix...
On devient tellement toxique que les gens ne veulent plus nous inviter, ne veulent plus s'associer à nous, on perd des contrats, etc. Et depuis quelques années, on parle même de culture de l'annulation. C'est très politisé comme terme, mais c'est de vivre un peu dans une société où on va tous s'auto-censurer pour éviter d'être annulé parce qu'on a peur de faire face à ce tribunal populaire. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a question de réputation, en fait. Puis vous savez, la réputation, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que tu peux passer des années à construire, puis en 15 secondes de ta vie, tu peux tout détruire ça. Là.
C'est particulier quand même, ce cancel culture-là, là, parce que... Mon anglais.
J'adore ton accent.
Merci. Parce qu'il y a des fois où j'ai le sentiment que c'est mérité, dans le sens que le tribunal social est plus fort que, malheureusement, des fois, le tribunal judiciaire.
Ben oui.
Mais il y a des fois où je trouve ça triste parce que je sens qu'il y a des gens qui vont passer dans le tordeur pas nécessairement pour les bonnes raisons. Puis ça fait plus mal, justement, que tout. Tu sais, il y a des gens qui connaissent certains noms, même pas pour ce qu'ils ont fait dans leur vie ou ce qu'ils faisaient avant, juste parce qu'ils sont associés maintenant à une certaine situation, à un certain geste,
une
à de certaines...
Oui,
des paroles. Tu sais, j'ai donné deux exemples complètement à deux extrêmes. Guillaume Lemaitre-Vierge et Julien Lacroix. On n'est pas partout dans le même genre de dossier.
Non.
Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est des propos un peu douteux, c'est des actions un peu douteuses aussi à travers les années, mais tu sais, tu vois, on dirait un gars qui réfléchit juste pas, là, tu sais.
Ouais, c'est ça. Il y a eu la COVID, où est-ce qu'il y avait organisé un party, là, alors qu'on n'avait pas le droit de faire des rencontres avec plusieurs personnes. Puis après ça, cette vidéo où il pointait le mot en haine.
Il l'avait pas vu. Lâchez-le.
Lâchez-le. On est là-dedans avec lui, là, comme un mané gros bon sang. À l'autre extrême, on a Julien Lacroix qui est passé dans le tordeur du Me Too. Tu sais, on est à deux échelles. Puis des fois, c'est dur de départager, ben, qui tu mets sur quelle marche, en fait.
Bien, c'est très... Il n'y a pas de science en arrière de ça. Mais non, on parle du tribunal populaire. Donc, ça dépend un peu de l'humeur et du climat social. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'en sort ou pas? Bien, la première des choses, c'est que... Bien, d'abord, il faut dire que c'est possible de s'en sortir. OK? Donc, il y a des gens qui sont revenus. Là, je pense à des Martha Stewart, à des Marie-Pierre Morin, par exemple, qui, même, j'ai envie de dire, sont revenus même un peu plus fort que qui était avant. Là,
mais oui,
le
parce
sens qu'ils ont capitalisé même là-dessus.
Absolument. Marie-Pierre Morin a décidé qu'on aime, qu'on n'aime pas sa présence. Elle a décidé de prendre le cheval par les cornes. C'est quoi l'expression?
Le taureau.
Ben, c'est ça, cet animal-là.
Les chevaux n'ont pas de cornes.
Par les cornes. Puis elle a décidé de faire quelque chose avec ce qui est arrivé, de créer un podcast. Elle a décidé de montrer sa sobriété, de mettre de l'avant qu'elle voulait changer puis qu'elle voulait aider les autres avec cet apprentissage-là.
Donc, c'est comment tu vas gérer ta crise, finalement. Puis les gens font souvent des erreurs. La première des choses, c'est que ça dépend de la gravité, évidemment, de ce que tu as fait. OK? Donc, c'est sûr qu'il y a une différence entre, puis là, je vais parler de Kevin Parent qui a eu une dénonciation de grainage de verre versus Gilbert Rozon qui a des accusations de viol. Tu sais, il y en a un qui a plus de chances que l'autre d'être réhabilité. Les gens sont davantage prêts à donner une autre chance selon la gravité.
Il y a un épais qui s'est fait pogner. Puis il y a un gars qui mérite d'être en taule.
C'est ça. Il y a des degrés, là. Parce que c'est un peu ce qui est dénoncé aussi dans la cancel culture. C'est qu'on dirait qu'on met un peu tout le monde dans le même panier et qu'on oublie qu'on a le droit aussi dans la vie, des fois, à une deuxième chance. Mais ça dépend ce que t'as fait. T'sais, pour moi, quelqu'un qui a fait un féminicide, ça se tu ne penserais pas là, que moi, je pense
non,
à un autre appel.
Tiens, un Kevin, ça me ferait que tu parles de Kevin Parent parce que j'ai l'impression que, de façon sociale... On va taper sur le clou parce que t'as des responsabilités, t'es une personnalité publique. Puis c'est correct, en passant, ça fait partie de la game.
Oui.
Mais moi, je pense à des parties de jeunesse où il y a bien des gars qui ont fait bien des affaires, les culottes baissées, tu comprends?
Les gens ont droit à l'erreur. Je reviens à Kevin Parent parce que moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a un peu raté justement
sa
gestion
remise,
de crise. En gros, là, la recette pour se sortir d'une crise réputationnelle, première étape, c'est d'écouter les critiques et de s'excuser. Et le réflexe, c'est pas toujours ça. Le réflexe, souvent, c'est tout de suite tomber en mode justification. Donc, les victimes ou les gens qui ont été affectés par ça n'ont pas l'impression que la personne les écoute à la base et on essaie de s'auto-justifier. C'est pas si facile que ça, s'excuser.
Je me souviens que dans le cas de Julien Lacroix, ça avait fait une controverse, là, sa façon de s'excuser qui
je m'excuse
avait
que vous
fâché.
Vous sentiez
ouais,
même, c'est pas des excuses.
Mais là,
okay, la gang?
Je peux t'amener sur une piste tantôt.
Ouais.
En frais de relations publiques, parce que je trouve que c'est tellement touché, parce que moi, personnellement, avec amour, dans des situations comme ça, les firmes de relations publiques qui vont faire ton texte à ta place, ça me donne
c'est
envie de vomir.
On l'entend que ça n'a pas été écrit par vous.
C'est fauné comme c'est pas possible. Ouais,
exact. Il faut que ce soit senti.
Oui. D'un autre côté, il faut clairement que tu sois conseillé par ton équipe, parce que t'en as, comme j'ai la croix, qui se plante, mais qui se plante.
C'est parce que les réflexes sont pas les bons. Puis non. Aussi, il y a une autre affaire. C'est que des fois, les avocats s'en mêlent. Quand c'est une histoire qui est judiciarisée, des accusations, des allégations, souvent, il va y avoir aussi des conseils légaux, et c'est bien correct. Mais
ouais,
s'excuser, c'est avoué.
Ouais, hein.
Donc là, des fois, ça peut rentrer en contradiction. Donc, des bonnes excuses, c'est des excuses où on est sincère, où on évite d'avoir un jargon technique aussi. Il faut que les gens comprennent bien ce qu'on dit, puis qu'on ne tombe pas trop dans la procédurite d'avocat non plus. La deuxième étape pour avoir un bon rétablissement de ta réputation, c'est de prendre une pause. Donc, Julien Lacroix, on dirait, il a comme trop essayé de revenir avant que le fruit soit mûr.
Puis d'expliquer, puis de justifier, puis de
toujours.
Ça ne l'a vraiment pas servi. Peu importe que ce soit un bon go au final ou pas, peu importe ce que
je fait. Je ne sais pas. Le fond de sa sincérité, je ne la connais pas. Mais on dirait qu'il a toujours essayé de revenir avant que le fruit soit mûr et au détriment des victimes. Et comme si ce n'était pas respectueux des victimes. Mm. Et aussi, il faut que tu réussisses à démontrer que tu as travaillé sur toi. Donc, si tu t'essayes tout le temps de revenir puis qu'on a l'impression que ton but, c'est juste de recommencer à travailler, bien, on a l'impression que tu n'as pas travaillé sur ta personne pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Puis ça, c'est la troisième étape, c'est de montrer ta reconstruction et le fait que tu as changé, que tu as compris certaines choses avec un bon timing. Puis c'est là que je trouve que l'exemple de Marie-Pierre Morin est vraiment intéressant parce qu'elle a pris, elle s'est rapidement excusée. C'est un exemple qu'on donne en gestion de crise comme étant d'avoir les bons ingrédients. Elle s'est rapidement excusée, elle s'est retirée de la vie publique et quand elle a effectué son retour, elle a mis un genou par terre. Elle a dit « J'ai manqué », c'était une entrevue à Tout le monde en parle en 2021, elle a dit « J'ai manqué de respect à tellement de monde ». Elle a parlé du fait qu'elle avait un ego démesuré. Donc, elle a entendu les critiques, elle a approuvé les critiques qui avaient été faites envers elle. Puis après ça, elle s'est mise à parler de ses enjeux de consommation de manière transparente dans plusieurs tribunes. Elle a même lancé des boissons sans alcool. T'sais, elle en a fait même une business. C'est un bon exemple. Un autre, c'est celui de Martha Stewart. Puis ça, c'est un peu différent parce que Martha Stewart, c'est une histoire qui est un délit d'initié. Donc, elle a commis un crime. Elle a été emprisonnée. Mais c'est un crime qu'on dit sans victime parce que c'est un crime économique. Donc, il n'y avait pas là, des manifestations de victimes à chaque fois qu'elle faisait quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu un avantage quand tu veux te rétablir. Elle, je trouve qu'elle s'est servie de manière très, très habile d'autodérision. Elle a parlé très ouvertement de ces choses-là, donc très, très transparente. Elle s'est associée avec Snoop Dogg. Elle a fait des spectacles de roast où les gens riaient du fait qu'elle avait été incarcérée. Donc, elle s'est servie beaucoup de ça. Et l'usage du documentaire en gestion de réputation, c'est très important. C'est vraiment une manière qu'on voit les personnalités publiques vont vouloir raconter leur histoire. Celui de Charlie Sheen aussi, tu sais, c'est quelqu'un qui a été annulé.
Ou les grandes entrevues. Tu sais, un Éric Lapointe qui est revenu publiquement il y a quelques années avec Sophie Durocher grande entrevue. Ça a passé pour certains, pas pour d'autres, mais là, t'es à nu, t'es en direct, c'est là que ça se passe. Pis...
Ouais, sauf que quand t'es face à une journaliste, tu contrôles pas tout. Dans un documentaire, c'est toi qui le contrôle.
Ben moi, c'est ce que j'aime.
Montre ce que tu veux montrer. Par contre, si tu fais juste mettre tout ça beau, ça passera pas. Faut que tu montres aux gens qu'il y a du pas beau aussi, puis que t'es prêt à l'accepter, puis à le montrer aux gens. Et ça, c'est un outil qu'on voit de plus en plus utilisé là, dans la gestion de réputation. Et en conclusion, les gens aiment ça, les bonnes histoires de rédemption.
Mais oui.
OK, donc ce chemin-là, il faut que tu le fasses sans raccourci.
On parlait de Soulja hier.
Bien, on parlait de Soulja. On aime ça, ça nous touche, ces histoires-là. Et les gens sont prêts à donner une deuxième chance quand les erreurs sont pardonnables.
C'est-tu... Puis là, je pense qu'on pourrait repartir là-dessus un bon bout. C'est-tu plus facile pour une femme de revenir? On parlait beaucoup de Marie-Pierre Morin. Si on prend le contexte exact de Marie-Pierre Morin... puis qu'on l'applique à un homme qui aurait fait le même cheminement, les mêmes étapes.
Bien, je dirais pas que c'est plus facile. Je dirais que les femmes ont certains ingrédients qui sont requis. C'est-à-dire...
Le côté peut-être émotif.
Avoir de l'empathie, c'est généralement une qualité plus féminine. Ça veut pas dire qu'il y a pas des gars
qui
l'ont.
En fait, je mettrais impulsivité comme mot. Je sens que peut-être les hommes vont avoir une tendance plus impulsive dans leur réaction qui vont peut-être leur nuire à long terme, contrairement à une fille qui va peut-être avoir le réflexe justement d'être un peu touchée par les réactions des gens puis de se retirer. En même temps, je dis ça, Je dirais, il y a probablement plein d'exemples qui peuvent contredire ce que je dis là. Mais tu sais, Max, je pense que c'est vraiment... Ça dépend de la situation. Une Marie-Pierre Morin a été chanceuse en tabarnouche aussi, quand on y pense, parce que son exemple est arrivé dans une vague où tu avais des cas beaucoup plus lourds.
Ouais. Yeah.
J'ai malheureusement l'impression, puis là, écoute, lancez-moi des tomates, mais j'ai l'impression que tu avais malheureusement l'image aussi, puis on a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, d'une Marie-Pierre Morin versus Safia Nolin. C'est horrible ce que je vais dire, mais là, c'est une question de faveur publique aussi et d'amour public.
Il y a comme une gang Marie-Pierre Morin, puis une gang Safia Nolin. Puis il y avait aussi, je pense, c'est devenu très politisé. Donc, les gens qui appuyaient Safia Nolin, c'est un type de personne plus à gauche, plus woke, plus...
Absolument.
Et du côté de Marie-Pierre Morin, c'est un autre style de fille, on s'entend en termes de standards de beauté.
Exactement, puis je voulais pas aller là de façon crue, mais si on est 100% transparent puis on arrête de se mettre la tête dans le derrière, là,
ben oui.
Ça a joué. Là. Marie-Pierre Morin est une belle fille qui a beaucoup fait jaser, qui avait ses talents de communication. Safia Nolin fait jaser pour plein d'autres raisons.
Ouais.
T'sais, j'ai comme malheureusement l'impression que tu additionnes toutes ces...
Ça fait partie des ingrédients.
Ben,
là.
Oui,
t'sais,
elle était chanceuse.
Quand tu fais une stratégie de relations publiques, tu vas faire ce qu'on appelle un force-faiblesse, menace opportunité. Mais c'est sûr que ta réputation, ce que tu dégages, le fait d'être un homme ou une femme, ça peut faire partie de tes forces ou tes faiblesses selon ça. Je reçois pas mal de textos. Il y a quelqu'un qui parle de Joël Legendre. En fait, vous êtes plusieurs à nous en parler.
Oui.
Joël Legendre, il s'était fait prendre à faire
à
des
se
activités
dans le
sexuelles
parc.
Dans un parc. voyez, mettons que, là, je veux pas faire des stratégies sur le bord de la table, mais il a réussi à s'en sortir effectivement parce que, bien, premièrement, il s'est excusé. Deuxièmement, il a disparu pendant un petit bout de temps et il a effectué un retour en expliquant qu'il s'était fait soigner aussi. Puis que c'était un problème, puis qu'il avait compris certaines choses.
Ça, c'était-tu sans victime directe aussi?
Oui, parce que c'était entre adultes consentants. En même temps, il mettait peut-être un risque qu'il y ait des enfants qui le voient ou des gens qui n'ont pas envie de voir des graines quand ils vont au parc. Là. Donc, je pense que c'est comme un entre-deux. Mais parmi les éléments, si on fait un classement de gravité des choses, je pense que ça fait partie des choses que les gens sont prêts à pardonner. Il y a aussi l'aspect que... Quand les gens ont des fanbases là, vraiment intenses, c'est Michael Jackson. Là. Vous avez vu le documentaire qui est sur Netflix ces temps-ci sur toutes les poursuites de Verdict?
Ouais.
Honnêtement, là, c'est dur de penser qu'il est blanc comme neige. Okay?
Mais c'est impossible.
C'est impossible
place,
de penser
là,
ça. Mais les fans de Michael Jackson ne vont jamais le lâcher. Ça, je veux dire, il l'aime malgré tout. C'est l'artiste qui vont aimer.
Et pour moi, t'as un problème de santé mentale si t'es pas capable de voir les choses écrites noir sur blanc. Là.
Mais tu sais, Éric Lapointe, là, est-ce qu'il est réhabilité, à votre avis?
C'est drôle que tu parles de ça. Oui, puis là, c'est drôle parce que c'est là que tu vois qu'il y a un manque de cohérence dans les motifs. Tu vois, Éric Lapointe, moi, c'est un artiste avec qui j'ai grandi. Chez nous, Éric a une place et j'essaye depuis de donner autant d'importance, mais quand je suis chaude, elle m'a dit que n'importe quoi arrive assez rapidement dans la soirée. Là,
c'est subjectif à
quelque
part.
C'est dur. Puis là, ce qui arrive, c'est que malheureusement, les gens vont comparer les gestes. Tu sais, ici, on parle d'une prise au cou à côté dans une armoire, là. Tu sais, c'est de la violence. Ça en est. Bon, est-ce que c'est bien réhabilité à travers les années? Certains diront oui, certains diront non. Dans les entrevues qu'il a données, il est transparent sur ça fait combien de temps qu'il est sobre, sur ses efforts des dernières années, sur sa bête noire. Il est transparent sur tout ça. Il y en a pour qui ça suffit. Je ne l'ai pas revu en spectacle.
Ouais.
J'ai des membres de ma famille qui sont allés pour le jour de l'an. Tu crois, il y en a... Je sens que c'est...
Il est comme semi-rétabli,
ouais,
je trouve.
Pour une partie de la population, mais là, c'est ça, c'est que tu rentres dans le tribunal de qu'est-ce qui est plus grave qu'une autre.
Il y a une partie de subjectivité à travers tout ça. On dit que quelqu'un est réhabilité quand il recommence à faire... Tu sais, c'est sûr que le test des médias traditionnels... Est-ce que tu es réinvité sur des plateaux de télé, dans des radios? Est-ce que tu es trop toxique pour être invité? Est-ce que tu vas avoir plus de plaintes que de gens contents?
Ben, t'sais, La Pointe a refait des petits festivals, ou même des bons festivals de région. Je pense pas que La Pointe pourrait refaire le FEC.
Effectivement.
Je pense qu'il y aurait un trop gros backlash.
Ouais, moi, j'aurais
mais il remplit des festivals plus de régions.
Ouais,
il remplit
ça.
Des salles.
Puis où est-ce que des fois, peut-être aussi les... culturellement, en termes de valeur, c'est sûr que sur le plateau Mont-Royal, c'est pas pareil qu'à Victo.
Je pense qu'une organisation comme le Festival d'été ne voudra pas se rembarquer là-dedans dans les prochaines années.
Mais là,
donc,
il y a
une question
d'image. Ouais, c'est ça. Il y a une question d'image à protéger aussi, je pense, pour certains festivals. Mais je trouve ça intéressant parce que je sens qu'on pourra en parler pendant des heures. Parce qu'encore une fois, moi, des fois, je me sens incohérente par rapport à ça, parce que c'est dur de l'être. C'est vraiment dur de l'être, parce qu'il y a des artistes dont tu te fous un peu plus, il y a des gestes dont tu te fous un peu plus. Nous trois autour de la table, il n'y a personne qui a la même limite non plus. Tu sais, quand il y a eu la vague MeToo, là, y a des gestes qui ont été décriés, que moi, je savais pas comment me positionner, parce que je m'étais rendu compte que, mon Dieu, j'avais vécu ça plusieurs fois dans les dernières années. Ça m'avait pas affecté de la même manière.
Tu sais, ouais. Michael Bublé a eu une controverse dans les dernières années où dans un live Instagram, tu le voyais être un peu brusque avec sa blonde. Puis tu sais, c'était rien de... Mais il y avait une grosse controverse parce que c'est Michael Bublé, parce que...
T'es filmé, parce que...
Exact. Ouais. Puis, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai vu personne... on a reçu un texto hier quand on en parlait, puis moi, honnêtement, c'est mes petites recherches par la suite qui a fait que j'ai été mis au courant, parce que je le savais pas. Là.
Mais ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de désinformations aussi. T'sais, hier, on a reçu le texto, puis c'était carrément...
Il
est accusé d'avoir battu sa femme. Attends une minute.
C'est pas tout à fait ça.
C'est ça. Puis
il y a plusieurs personnes qui nous écrivent aussi à propos de Philippe Band. C'en est un qui n'est pas réhabilité.
Il n'a pas rebondi.
Il n'a pas suivi les étapes. Il n'a pas suivi les étapes nécessairement dont je vous ai parlé. Et aussi la gravité des gestes qui étaient dénoncés, c'était un peu capoté.
Oui, bien, c'est ça. Je pense que malheureusement... Mais il y a de quoi de beau aussi là-dedans. Parce que je pense que ça fait du bien dans certaines situations, du mal dans d'autres. Mais c'est ça, on a tous nos limites. Puis, tu sais, je trouve que quand on se met à parler de communication puis de façon de faire, les trois pistes que tu as données sont excellentes. Mais je pense que quand quelqu'un n'est pas capable de logiquement y penser seul, c'est perdu d'avance. Mais ça, c'est ma petite tête à moi qui est peut-être pas très tolérante non plus. 88-971-1021, merci Anto. Au retour de la pause, Samuel Tremblay-Michaud répond à vos questions auto. J'en ai vu une coupe passer tantôt. Là. Renvoyez-les, OK, parce que là, on se texte, on jase, on s'est rendu un peu loin. Là. Donc, on va les poser à Sam, on va jaser l'actualité automobile également. Il est 17h16 jusqu'à 18h, c'est le retour de Boulevard 102.
Le retour. Prisme-etchemin.qc.ca.
Le chantier naval Davie recrute à Lévis des centaines de postes à combler. Peintre, électricien, assembleur, contremaître, on a besoin de toi. Davie, c'est le plus grand chantier naval au Canada. Des conditions de travail solides puis un carnet de projets rempli jusqu'en 2040. De la job, t'en manquera pas. Il y a des avantages multiples à travailler pour Davie. Assurance complète, santé, invalidité, régime de retraite, événement d'entreprise, programme d'aide aux employés et télémédecine, congé payé 2 jours mobile, 2 jours pour obligation familiale, congé payé durant les fêtes quand on ferme le site, une ambiance de travail qui est positive, soutenue par l'employeur et un stationnement gratos sur place. Des horaires de travail qui vous donnent plus de temps personnel, de jour, des semaines de 4 jours, 10 heures, soir, 4 jours, 10 heures avec prime, puis mon option préférée qui me fait capoter, des semaines de 3 jours de fin de semaine, 12 heures, payé 40 heures avec prime. Ose le grandiose pour ta carrière. Postule davyrecrute.ca.
Découvrez la...
À 17h22 à Boulevard 102.1, on a de la visite. La visite qu'on a mis en retard un peu, si je suis bien honnête.
Le soleil?
Oui, ça, c'est effectivement un pan de visite qu'on attendait depuis un bout. Déjà, ça commence à se pointer, t'as raison. En passant, peut-être vous dire que ce soir et cette nuit, on va être autour de 16 degrés. Demain, 25, gros soleil. 16 en soirée, gros soleil. La pluie qui devrait être de retour jeudi, mais on n'en parlera pas, OK, parce que c'est soleil vendredi aussi. Fait que je crois à la rédemption de Dame Nature, si elle a envie de donner un petit coup de pouce. Là. Non, je parlais de Sam Tremblay-Michaud. Si vous avez des questions automobiles, c'est maintenant que ça se passe. Samuel Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur automobile à RPM, journaliste automobile aussi. On a des petits sujets d'actualité, évidemment, à traiter, mais ce ne sera pas long qu'on va répondre à vos questions, qu'ils soient plus générales, plus pointues. Donnez-moi une chance avec les noms de véhicules, là, je ne suis pas meilleur. Là. Mais Sam, généralement, comprend bien. Sam, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Là, tu reviens d'une semaine de tournage, toi, là.
Oui, on tourne durant l'été les segments routiers de l'émission RPM. Deuxième bloc qui est fait, ça avance bien, on retourne sur la piste d'accélération à Charlevoix avec nos véhicules, une demande de nos fans qui voulaient vraiment qu'on retourne sur la piste. Donc, bien content d'animer la prochaine saison et d'inclure ce retour-là.
C'est combien comment ça marche vos tournages? Parce que t'es là, mettons, pour la semaine là, ou pour une couple de jours. Fait que c'est-tu pour une émission seulement?
Tournage de 2 semaines. Faut savoir qu'on tourne RPM à Québec, dans les studios de Québec. Donc ça, c'est fait par une équipe de caméramans, de gens de son de la ville. C'est vraiment trippant. Et une fois que tout ce qui est en studio est fait, que la recherche est bien faite, là, ensuite, on s'en va toute l'équipe à Charlevoix. Et là, on va passer une semaine là-bas à tourner ce qu'on a besoin de faire sur la route. Des bonnes semaines, de grosses journées, beaucoup de plaisir, une équipe extraordinaire.
Plate, hein?
Non, non, c'est vraiment le fun. Mais c'est très exigeant. Des fois, on le voit pas, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est tout fait ici. Puis je suis très fier de ce qu'on va vous présenter pour la prochaine saison.
Très hot. Le premier sujet qu'on veut traiter ensemble, tu m'as pas donné beaucoup de détails, mais j'ai vu tantôt que tu as fait des médias sociaux sur le sujet.
Yes.
Tu travailles un dossier concernant en ce moment le Nissan Leaf.
Oui, le VUS Leaf, que Nissan appelle un VUS, mais c'est une voiture, là, honnêtement. Là, c'est une voiture surélevée, traction. On a sorti une nouvelle génération pour 2026, véhicule qui était attendu vraiment. Ça fait du bien. Nissan, d'ailleurs, un bon coup de jeunesse. Et les chiffres sont bons. On a vendu 1395 Leaf durant le deuxième trimestre de l'année seulement. Donc, un bon succès commercial jusqu'à maintenant pour le constructeur quand même. On a quand même un début qui est un peu laborieux parce qu'on a fait déjà un arrêt des ventes il y a quelques mois par rapport à un problème de batterie haute tension. Ça ne touchait pas l'ensemble des unités du Nissan Leaf. Ça touchait quelques unités. Et là, on a remis un nouvel arrêt des ventes sur ce véhicule-là qui vient tout juste de tomber. J'ai eu l'information par des contacts dans le milieu qui m'ont quand même appelé aujourd'hui pour m'annoncer ça. J'ai fait des vérifications avec Nissan Canada qui, du bout des lèvres, m'ont annoncé que c'était vrai. Finalement, m'ont envoyé un communiqué complet pour me dire « c'est vrai ».
Mais pourquoi, mettons, qu'est-ce qu'on fait sur le nom, là?
Il faut savoir qu'il faut distinguer un rappel et un arrêt des ventes. Un rappel automobile, c'est souvent qu'il y a une raison de sécurité derrière un problème sur le véhicule qui peut être relié à des coussins gonflables, des choses comme ça, qu'on va émettre un rappel pour régler le problème. Les véhicules peuvent continuer à être vendus et souvent, quand on amène les véhicules dans les concessionnaires, c'est qu'on a déjà effectué le rappel au préalable.
À ne pas confondre non plus avec un rappel au Festival d'été de Québec où là, on en redemande davantage. Là, c'est pas ça. Là.
Non, c'est pas ça.
On en veut le moins possible des rappels automobiles.
On les évite au maximum dans l'automobile. Et là, dans le cas d'un arrêt des ventes, c'est que c'est le même principe qu'un rappel, ce qui veut dire qu'il va y avoir un rappel qui va découler de ça, sauf qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour réparer le problème et donc les véhicules qui arrivent en concession ne peuvent pas quitter le concessionnaire. Donc, si, exemple, vous avez acheté un Nissan Leaf dans la dernière semaine, vous l'attendez pour la fin de la semaine cette semaine, je n'en reste pas une nouvelle pour vous, mais ça n'arrivera pas là.
Oh, OK, fait que les contrats sont brisés aussi.
Les contrats sont brisés, seront simplement retardés, mais on ne pourra pas vous livrer officiellement le véhicule. C'est relié à un problème de sécurité avec les ceintures de sécurité à l'arrière, la deuxième rangée. On n'a pas expliqué exactement c'est quoi l'enjeu, mais il y a clairement un problème avec le rétracteur à verrouillage automatique qui pourrait se désactiver. Ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, on a besoin d'avoir une ceinture qui se rétracte rapidement pour tenir le corps de la personne en
quand
place
ça bloque,
lors d'un impact.
Ça gosse, là.
Exact, mais c'est pour votre sécurité. Ouais. Ben, ça le ferait peut-être pas. Donc, okay. On semble avoir un problème avec ce système-là. C'est majeur. Nissan n'a pas trouvé encore la solution.
Puis là, mettons là, que moi, j'en ai un, puis ça marche pas, puis tout, ils vont faire un rappel, j'imagine?
Ça, c'est stressant pour les gens qui en ont. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Nissan semble vouloir faire un rappel volontaire. Donc, le constructeur va probablement rappeler, selon moi, l'ensemble des livres 2026 qu'on a vendus dans la dernière année pour les faire retourner au concessionnaire. Il n'y a pas d'action à prendre tout de suite. Si vous êtes propriétaire d'un Nissan Leaf, vous m'écoutez actuellement, partez pas en panique. On va vous contacter par courrier. On va vous envoyer une lettre pour vous annoncer qu'il y a un rappel sur votre véhicule. C'est pas encore fait. On n'a pas encore envoyé les lettres non plus. Ça ne sera pas tout de suite. Mais clairement, il va découler un rappel de cette situation-là. Ça sera à suivre. C'est dommage pour Nissan, un véhicule qui connaît justement un bon succès et qui, malgré tout, avait fait du bien à la marque en termes de renouvellement. Mais malheureusement, ça arrive dans les premières versions des modèles. Souvent, on a des bobos de même. Oui. Puis quand ça touche la sécurité, il n'y a vraiment pas de risque à prendre.
On entend souvent ça. Hein? On attend une couple d'années. Là,
On est les premiers à le faire. Puis à vous le dire, je le répète à peu près 50 fois par jour durant l'émission de télé, mais ça vaut vraiment la peine de prendre du temps. T'sais, des fois, on est emballé, on a envie, un nouveau véhicule arrive, il nous tente, il a l'air de répondre à nos besoins, on a envie de prendre un risque. Mais c'est ça. Ça vient aussi avec ce fardeau-là de devoir porter.
Des possibles citrons.
Exact.
On a déjà des questions qui rentrent. On a une question de Mathieu qui demande c'est quoi le meilleur VUS compact pour le prix? Il me dit style Crosstrek.
OK, là, on est dans le sous-compact. Quand on parle de Crosstrek, c'est une catégorie un petit peu plus petite que les Toyota RAV4. Si on garde Subaru, on pourrait parler plus du Forester. Le Crosstrek est vraiment une option très intéressante dans le marché. Pas le moins cher, mais qui offre une très bonne valeur. Si vous voulez un produit qui conserve bien son statut sur le marché, un produit qui va être très recherché dans l'usager aussi.
Puis il vieillit pas, on dirait.
Subaru Crosstrek, c'est vraiment un choix très logique pour le Québec. Moi, je l'ai affectueusement appelé Capitaine Québec dans mon article que j'ai fait sur ce véhicule-là. Parce qu'il est taillé sur mesure pour nos routes, pour nos conditions. Donc, c'est un choix intéressant. Dans la même catégorie des sous-compacts, je pense aussi au Toyota Corolla Cross, qui est un produit qui me surprit surtout en version hybride conduite, qui est surprenante pour Toyota quand même, bien plantée au sol, une valeur de revente à tout casser. Et bien évidemment, la consommation de carburant qui va venir avec, qui va être très, très faible. Donc, un produit bien intéressant. Puis, je termine avec peut-être le duo coréen Kia Seltos, Hyundai Kona, deux produits sérieux. D'ailleurs, cette semaine, au Lac Beauport, ils font le lancement officiel du nouveau Kia Seltos 2020. 2027. Je vais assister à l'événement. On fait un lancement pan-canadien ici, dans la ville de Québec. Je trouve ça le fun de le dire. Et on va, d'abord, dès demain, vous allez peut-être en voir sur les routes. Là. Il y a plein de journalistes qui vont rouler avec les Kia Seltos 2027 de Kia Canada pour faire les essais routiers. Je vais pouvoir vous en reparler de mon essai complet le 21 juillet. Donc, c'est très bien.
C'est-tu rare des événements de même à Québec?
Et écoute, c'est drôle, cette année, c'est mon deuxième. Toyota a fait un événement comme ça il n'y a pas longtemps, au lac Beauport aussi. Puis j'ai déjà fait un événement avec Chevrolet qui a fait un road trip à Charlevoix. Mais ça, c'est vraiment des programmes nord-américains quand même. Il y a du monde comme du Texas qui arrive.
C'est hot.
C'est bien pour la ville. Je trouve ça vraiment intéressant.
Autre question avant de passer au deuxième sujet. Santa Fe 2024 vers Matt. On est très précis.
Oui.
un peu monté pour le bois. Est-ce que je me sauve ou c'est pas pire?
Ah, c'est cool, là, go, allez-y, il n'y a pas de problème. Là. J'imagine que c'est une version 2.5 litres turbo, c'est pas une version hybride, parce qu'on avait le vert olive dans la version hybride, qui est un vert métallisé, que le vert avocado, que je trouvais magnifique. et dans la version hors-route XRT, c'était plus une version, je pense pas que c'était encore un XRT, là, mais on avait un vert mât, effectivement. Moi, personnellement, le 2.5 litres turbo, je l'aime moins que la version hybride. Si vous aimez le Santa Fe, je vous encourage fortement à aller vers la variante hybride, beaucoup plus intéressant comme machine. J'aime pas la transmission double embrayage de la version turbo 2.5. Peut-être un petit peu moins fiable aussi à long terme. Peut-être un produit que je regarderais de loin, si très beau, là, mais allez chercher l'hybride si vous êtes capable. Puis si jamais c'est une question de préférence, ben allez-y quand même parce que ça reste un produit pertinent.
Deuxième sujet qu'on veut faire avec toi, Sam, avant de faire, mettons, les questions en rafale, là, c'est les véhicules connectés chinois. Est-ce que c'est pire pour la vie privée que les autres? On dirait qu'il y a ce mythe ou réalité à
les
toi
méchants
de me
chinois.
Le dire.
Ouais.
Les renseignements personnels, les compagnies. Je ne sais pas à quel point c'est devenu problématique dans l'industrie automobile, mais j'ai vu que vous avez fait un texte là-dessus sur le rpmweb.ca.
Ouais.
J'ai trouvé ça super intéressant.
Oui, c'est intéressant. C'est une question du public que je répondais d'ailleurs parce que je suis bien impliqué dans l'histoire des partages de données. On a plusieurs études qui ont sorti dans les dernières années pour prouver que la voiture connectée est la bébelle et le bien de consommation qui est les plus grandes failles en termes de sécurité personnelle. C'est pire que votre cellulaire. Je sais que les gens vont dire nos cellulaires sont dans nos poches, blablabla. La voiture connectée, il y a une perte de contrôle dans la donnée qui est collectée, puis ensuite les constructeurs peuvent les revendre à qui bon leur semble. Donc, ceci dit, vous me voyez venir, les voitures chinoises, est-ce qu'elles sont pires dans cette manière-là? Pas du tout. Même GM a déjà vendu, puis s'est fait taper sur les doigts il y a quelques mois. Aux États-Unis, on ne pourra plus vendre même des données pendant 5 ans. Il y a 12 millions d'amendes qui ont été demandées à GM pour avoir vendu des centaines de milliers de données personnelles à des tierces parties sans le consentement des propriétaires. Donc ça, c'est bien complexe. La seule chose qu'il faut mettre en évidence, par contre, avec les véhicules chinois, c'est qu'il y a une différence en termes de législation. C'est que la Chine peut demander aux constructeurs automobiles, sans aucune raison valable, de récolter les données qu'on va avoir accumulées via les voitures connectées. Donc, il y a comme un élément législatif là-dessus qui est un petit peu plus épeurant avec les véhicules
chinois.
Dans
ma tête, on dirait que c'était logique que ce que tu fais que ton char ou quand tu te connectes, ou dans ma tête, tout ça, c'est facile, puis tu redonnes. Tu sais, tu comprends?
Ouais, mais
dans ma tête, c'est logique, il me semble. Christy, tu récoltes pas les données, on n'arrête pas de dire que c'est pas bien.
Pas du tout, au contraire, même que plus que jamais, on enregistre vos habitudes de conduite, vos déplacements, la géographie, les caméras embarquées sur les véhicules, les caméras 360 qui ont déjà été utilisées pour des enquêtes criminelles. On a réquisitionné des caméras pour voir des photos de véhicules. Et où la ligne? Et où la limite? Comment on peut contrôler ça? Ça commence à être un petit peu épeurant, tout ça. Et bien, la Chine, c'est ça l'enjeu. C'est surtout une question aussi de sécurité. Les problèmes avec l'espionnage ou ces choses-là. Là, on met ça beaucoup en évidence avec le gouvernement chinois. Fait que c'est un peu un flou qui persiste avec la capacité du gouvernement chinois à aller chercher les données des constructeurs de manière unilatérale. C'est à surveiller. Donc oui, il va y avoir des différences là-dessus. Puis clairement, il va falloir mettre des lois entourant ça. Maintenant, est-ce que ça va être respecté? Est-ce qu'on va être dans un cadre sécuritaire? Ça sera à suivre.
Je t'amène vraiment ailleurs. Alors, on a une question d'un auditeur. Je voudrais faire un traitement anti rouille sur mon Kia FEV. Est-ce que ça se prononce comme ça? Je l'ignore.
Ou FEV. Hein,
ça serait PHEV.
PHEV.
Mais on peut dire FEV, c'est sympathique.
Mais le concessionnaire m'a dit que la garantie allait tomber. Quelles sont mes options?
J'adore ça parce que je viens d'écrire un texte d'opinion
c'est
là-dessus.
C'est vraiment ironique, ça.
V'là comme quelques semaines par rapport aux antirouilles. Dans le fond, la vraie réponse, c'est non. Votre antirouille ne va pas annuler votre garantie anticorrosion. Faut savoir que c'est un peu comme n'importe quelle réparation que vous pourriez faire sur votre véhicule. Si, exemple, vous changez vous ou même, je sais pas moi, le radiateur du véhicule, il y a un problème ensuite avec cette pièce-là et que vous essayez d'avoir la garantie pour couvrir la perte d'un bien, ben là, on va vous dire, ben là, tu sais, c'est pas le radiateur d'origine, il y a des erreurs qui ont été faites dans la manipulation, nous, on peut plus garantir cette pièce-là. Ceci dit, si, exemple, vous avez remplacé votre radiateur, mais que votre système anti-pollution sur votre véhicule explose, il est encore garanti, lui, parce qu'il n'y a aucun lien connexe entre les deux, puis ça peut pas avoir impacté la garantie complète du véhicule. L'antirouille, c'est le même principe. Quand on applique un traitement antirouille en tant que tel, si l'application se fait par des garages professionnels ou des marques connues d'antirouille un peu partout qu'on a dans la région de Québec, il n'y a pas de danger, là.
C'est pas problématique.
Pas du tout. Il faudrait qu'on prouve que le traitement antirouille ait nuit à la garantie de votre véhicule ou qu'il ait créé de la rouille, ou il faudrait que le concessionnaire ou que la marque vous poursuive en prouvant que vraiment le traitement antirouille... Oubliez ça, là. C'est une histoire qui n'arrive pas. Dieu. C'est trop compliqué pour rien. On veut vous
Mais
faire peur.
Mais pourquoi dire ça?
Parce qu'on veut vous vendre l'antirouille directement au concessionnaire.
Ah, voilà.
Donc, allez magasiner l'antirouille que vous voulez.
Je trouve ça croche.
Prenez l'antirouille que vous voulez et ne prenez surtout pas un antirouille électronique. Je vous en supplie. Ça n'existe pas pour vrai une solution miracle comme ça. Achetez-vous un antirouille graisseux, huileux, n'importe laquelle compagnie que vous connaissez dans la région de Québec, que vous faites confiance. Allez voir un garagiste de confiance, mais vous êtes capable de choisir vous-même l'antirouille pour votre véhicule et ce, peu importe. Si jamais vous voulez avoir des preuves, là, allez voir mon texte, pour vrai, rpm1.ca. Il y a des avocats qui ont écrit là-dedans. J'ai des preuves de constructeurs automobiles.
Mais
montrez ça à votre concessionnaire.
Pourquoi les concessionnaires ne nous disent ça? Je comprends pas.
Ben là, c'est de l'argent, Audrey. Là,
mais là, c'est de l'argent, mais oui, mais c'est aussi une mauvaise réputation.
Ouais,
mais c'est...
Moi,
on les
assez haïs. Pour changer de concessionnaire la
ben,
prochaine
sérieux?
Fois. Là.
C'est ça le problème. Parce que les gens, est-ce qu'ils sont tous au courant? Est-ce que les gens font toutes ces démarches-là? Pas nécessairement, mais c'est pour faire de l'argent. Là,
ah, mon Dieu,
c'est malhonnête un peu.
OK. Pour les véhicules usagés, on parle de la longévité des batteries. Qu'en est-il au niveau des véhicules hybrides? Est-ce que c'est un point à considérer? Je songe à racheter un Toyota Prius Prime 2022 l'année prochaine suite à une fin de location. Est-ce que c'est une bonne idée?
Ça peut être une très bonne idée. Ce que je vous invite à faire, c'est une inspection complète. On peut mesurer l'intensité et la capacité de votre batterie encore. Donc, est-ce que votre batterie est encore fonctionnelle? Est-ce qu'elle a encore beaucoup d'autonomie? On peut la tester au même titre qu'on peut tester un téléphone intelligent et puis savoir la performance de la batterie du téléphone. Donc, je vous invite juste à faire l'inspection, savoir si la batterie est encore en bon état. Mais théoriquement, un véhicule qui a 4 ans devrait encore avoir une batterie bien fonctionnelle.
Hey, catégorie petit pick-up de ville.
Oui.
Un Maverick Ford.
Yes.
Ou tu recommandes plutôt d'autres marques pour
non,
ce genre de véhicule?
Non, un Ford Maverick, moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup la version hybride. Je tiens à le préciser, le moteur de litre turbo ne m'a pas du tout convaincu dans ce véhicule-là. Contrairement au 2.5, beaucoup plus doux, vraiment plus agréable à conduire. On a sorti en 2025 également la version 4 roues motrices du hybride. Vraiment agréable pour nos hivers aussi. Donc ça, c'est un produit que je recommanderais. Seule chose à savoir, toutefois, c'est que Ford a l'air d'avoir de la misère encore énormément avec leur qualité et leur contrôle. Beaucoup de rappels chez Ford. On a des rappels... Honnêtement, j'ai même pas de mots pour dire à quel point ça pue de bon sens la quantité de rappels que Ford a mis sur ses véhicules dans les dernières années. Donc ça m'inquiète un peu pour la qualité du véhicule. Après ça, bon, quand les rappels sont faits, ça va bien. C'est un produit qui, dans sa catégorie, demeure très convaincant. Mais sachez que le constructeur Ford se porte pas à merveille actuellement. Donc ça se peut que vous ayez quelques petits bobos de départ, puis des rappels et des ci et des ça qui viennent avec ça.
Je t'en pose deux en une, OK? Là, c'est deux modèles, puis on se demande qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le Honda Redline 2026? Et Polestar 4 2026.
Bon, c'est deux modèles, le Polestar 4, puis on a le Ridgeline également chez Honda. Ridgeline qui a été arrêté de produire présentement. On était comme en arrêt de production pour 2 ans. Bizarre de stratégie de Honda. On veut revenir avec une nouvelle génération de ce véhicule-là qui devrait arriver plus au tournant de 2028. Pour le moment, on va écouler qu'est-ce qu'on a. S'il reste des Ridgeline, ce n'est pas des produits qu'on a eu en grosse quantité avec les problèmes tarifaires qu'on a connus dans les dernières années. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à part, soyez patient si vous désirez vraiment avoir un Ridgeline. Et même là, ça va être une nouvelle génération. On parle d'une mécanique hybride potentielle. Beaucoup de questions à soulever par rapport à ça. Donc, je voudrais rester prudent sur le Ridgeline. Pour le Polestar 4, c'est un produit qu'on a vu, qu'on a pu essayer, qui devrait tranquillement être disponible également en concession. Maintenant, Polestar connaît plusieurs problèmes, viennent de quitter les États-Unis, se sont fait bannir des États-Unis pour des problèmes d'espionnage. Donc, Polestar s'en va. Et ça va faire certainement écho au Canada. Donc, c'est deux modèles que vous regardez qui sont sur le respiratoire artificiel ou c'est un peu compliqué actuellement.
Je termine avec une dernière question, Sam, je vois le temps filer. Je pense que la semaine prochaine, on sera peut-être une chronique que des questions parce que les auditeurs en ont énormément, puis visiblement, tu as les réponses. Il y a Jay qui nous dit, ce serait quoi l'équivalent d'un, m'excuse, là, 1.9 TDI, 2000-2004 dans les véhicules d'aujourd'hui.
Bonjour Jay. Premièrement, c'est l'époque glorieuse de ces TDI-là. Il n'y a rien qui équivaut à ça en termes de sensations, de mécanique, d'odeur. Je sais pas, c'est des moteurs mythiques quand même chez Volkswagen. Si on veut vraiment parler plus d'autonomie, parce que c'était vraiment pour ça qu'on les choisissait, c'était économique sur la grande route, des vrais tanks, ces petits moteurs-là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de tourner vers l'hybride, si vous voulez avoir quelque chose comme ça. Quand je pense à un Honda Civic hybride, mettons, là, c'est une mécanique qui va vous donner beaucoup d'autonomie pour l'argent qu'on va mettre dans l'essence, mais ça sera jamais la sensation de ce TDI-là. Ça va être, c'est presque impossible à trouver. Exactement. Il n'y a pas d'équivalent à ça. C'est assez niché. Malheureusement, ça n'existe plus. Il faut se tourner vers des mécaniques alternatives pour réussir à atteindre le même genre d'autonomie.
Bon, Sam, toujours un plaisir. Je vois les textos qui continuent d'entrer. La semaine prochaine, on va vraiment faire en sorte de garder vos questions. On mettra même ça au pire sur les réseaux sociaux là, pour en prendre un peu peut-être d'avance puis se prendre un bon 20 minutes. Là, je vois le temps qui file. Merci de prendre le temps passant. C'est drôle. La semaine passée, mon père a décidé qu'il utilisait Sam. Là.
Oui.
Là, il est comme dans un gros dilemme de troc en ce moment. Là. Ça, c'est le rêve de sa vie. Là.
Comment ça se passe?
Il est toujours en grand dilemme. Là, et...
fait c'est pas réglé.
Je lui ai envoyé ton message. Là, il y a plein de modèles, il sait plus quoi faire.
Mais tu m'écris, on s'en reparle.
Bon, on s'en reparlera à ce moment-là. Je pense que je vais vous mettre en contact, ça va être facile.
Très bonne idée.
Jay te fait dire merci, on se parle la semaine prochaine.
Sans faute.
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, vous le retrouvez sur sa page Facebook qui porte le même nom, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Et vous pouvez le lire sur le rpmweb.ca également. On revient dans les prochaines minutes. Max a un dossier pour nous concernant, je dis le Festival d'été de Québec, mais tu sais, quand on va au FEC ou dans n'importe quel festival, en fait, il y a toujours les vendeurs de bière qui semblent un peu indépendants. Ils se promènent avec des caisses à la tête, là. Il a parlé avec un de ces vendeurs-là. J'ai l'impression que ça va être intéressant. On se retrouve dans quelques instants. Boulevard.
Le retour de Boulevard. La Ride.
Vous êtes à Boulevard 102-1, 17h45 minutes. Il y a quoi que ce soit sur les routes, vous vous gênez pas. Ça s'est pas mal dégagé, honnêtement. Je pense que c'est la plus belle journée depuis des semaines. Parce que tout ce qui reste, c'est une petite zone de travaux qui fait un ralentissement sur la 20 Ouest dans le coin de Taniata à Lévis. Max, t'as préparé un dossier où t'as jasé avec Ben Baudouin. On le connaît en passant. Là. C'est un auditeur qui, à une époque où Boulevard était musical, a gagné le plus grand fan de rock. Et Ben est vendeur de bière mobile. Je trouve ça super intéressant parce que lui, il se promène à travers les différents festivals. Puis, ben, il vend de la bière avec une caisse à la tête. Puis, écoute, il y a mille affaires derrière ça. Ces gars-là sont originaux en passant. Là, vous aurez remarqué qu'il y a des caisses bien plus tripantes que d'autres.
Bien, ça, puis ça aussi, ça dépend des festivals parce que chaque festival a ses différentes règles. Il y en a où tu n'as pas le droit d'avoir de lumière sur ta caisse. Il y en a où tout le monde a la même caisse. Puis, fait que chaque festival a ses différentes règles. Là, on est allé vraiment dans le général. Ben, qui en fait depuis longtemps des festivals. Puis, c'est drôle parce que j'ai justement parlé avant, même pendant un show, on entend un peu de la musique. C'était mercredi passé à soirée 1, 2, 3 punk de Reg du côté de l'Agora avec Silverstein. Fait que j'ai croisé Ben là-bas. Puis, on a profité pour jaser. Fait que j'ai commencé avec ça. Ça fait combien de temps qu'il fait ça, vendeur de bière mobile? Comment ça marche pour entrer dans un festival?
Depuis 2015, premier festival que j'ai fait, c'est à Festivant. Puis depuis ce temps-là, je fais plein de festivals. J'en fais à peu près 5-6 par été. Puis ça n'a jamais arrêté. Ça dépend des festivals. Il y en a un festival là, qui est plus gros que les autres, que dans le fond, tu envoies ton nom comme bénévole. Il y en a d'autres que c'est du bouche à oreille. Si tu connais quelqu'un, tu jases avec pendant le show. Puis si tu as une bonne vibe avec la personne, il va donner ton nom, puis tu donnes le nom de la personne aussi. Fait que c'est par référence la plupart du temps, là. En tout cas, comme moi, ça a été ça, là.
Peut-être que je te devance, là, mais il y a une question que je me suis toujours posée, c'est comment ils font leur argent, parce que j'avais déjà entendu dire qu'ils n'ont pas le choix de vendre la bière au même prix que le festival, ce qui fait du sens, mais je me dis à ce moment-là, tu fais ton cash comment, le pourboire?
Souvent, c'est ça, mais encore là, ça dépend. Puis, si tu veux, tu peux aller directement à l'extrait numéro 4, tant qu'à être là. Puis, vous allez l'entendre, c'est vraiment un gros « ça dépend » parce que ça diffère selon les festivals.
Mais ça dépend. Ça dépend des événements. Puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, encore une fois. Désolé, c'est plate. Mais ça va entre pas beaucoup à c'est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Ça dépend des soirs, ça dépend des événements, ça dépend des groupes, ça dépend de la température, ça dépend si les gens y ont soif. C'est une réponse de politicien, mais c'est la réponse que je vais donner.
Parce que généralement, oui, on s'entend, le pourboire est pas mal ce qui va être payant pour ces vendeurs mobiles-là.
C'est sûr qu'une soirée, mettons, Limp Bizkit, où les gens sont sur le party, prennent un verre, ont le goût de fêter, versus de Lumineers, où tu regardes un show plus acoustique, plus relax, ça doit pas être le même revenu de fin de soirée.
Non, puis ça nous mène d'ailleurs à l'extrait numéro 2 de base, où... j'ai demandé, tu sais, hey, t'as-tu un show qui te vient en tête, qui a vraiment vendu en fou? Puis il n'y avait pas nécessairement de show, mais il y a un style qui sort du lot.
Il y en a un à un moment donné qu'on pouvait vendre, c'était quasiment, tu sais, comme 3 caisses de 24 en l'espace de 10-15 minutes. Là. Ça arrêtait juste pas, puis. Mais bon, c'est pas mal celui-là, là, où est-ce qu'à un moment donné, tu dis, il fait chaud, puis on en vend de la bière, là. Country. Country. Hein? Les cowboys, les cowgirls, les fermiers, ça boit puis ça se tient debout, ça arrête pas. Ça arrête pas eux autres, là, c'est ouais, une après l'autre. Là.
J'aurais pensé rock.
Ah, tu vois, je suis pas surpris, pas en tout, moi.
Oh, ouais.
Non, les shows country, puis ça, suffit d'aller voir un show country, mettons au centre Vidéotron, là. Les fils pour les bars ont aucun sens. Le country, ça donne soif.
J'en ai peut-être pas assez vu parce que j'en écoute, mais j'ai pas été à beaucoup de shows country dans ma vie. C'est peut-être pour ça que ma...
Ah, peut-être.
Dans ma tête, moi, c'était comme automatiquement, je sais pas, show rock. Dans ma tête, il y a une vibe, on prend une bière, tu sais.
Ben, puis je pense que aussi, peut-être que les fans de rock ont vieilli. Alors que le country, souvent, tu sais, c'est le nouveau style à la mode. Là, fait que, tu sais, la gang entre 18 et 30 ans, là, on dirait que c'est vraiment ça, le country en ce moment. Fait que ce monde-là, ça boit beaucoup. Puis oui, le country semble donner soif. Là, on parle de vendeurs de bière mobile. Mais on s'entend, au début, c'était ça. Les gars, les filles qui font ça avaient que de la bière dans leur genre de bac.
Ah, maintenant, il y a toutes sortes d'affaires.
Puis souvent, c'était une seule sorte de bière. Puis si t'avais pas ce bière-là, tant pis pour toi. C'est ça que tu vas boire pareil si tu veux de la bière. J'ai parlé à Ben de l'évolution dans la consommation, dans l'offre au fil du temps.
Quand j'ai commencé, comme tu dis, c'était que juste de la bière. Puis le monde aimait ça, aurait aimé avoir plus de diversité. Maintenant, ben oui, les Seltzers, les prêts à boire, la bière, même il y en a à des festivals qui vendent des shooters dans la foule. Le monde trippe pas mal plus parce que justement, il y a plus de diversité. Il y en a dans les bars, mais quand on est vendeur mobile, d'avoir juste une sorte de quelque chose, ben c'est mauvais jeu de mots, mais c'est moins vendeur. Tandis que là, en ayant plus de sortes, ben on peut plus répondre à la demande. Là.
J'ai même vu un gars avec du sans-alcool.
Oui, à cette heure, souvent...
Choisissent-tu ce qu'ils mettent dans leur caisse?
Je sais pas à quel point ils ont le choix, puis encore là, je pense que ça dépend des festivals. C'est inévitablement, t'as pas le choix d'offrir ce qui est offert au bar général du festival.
Tu peux pas offrir quelque chose d'autre que ce qui se vend.
Exact. Si c'est de la course au bar, tu peux pas nécessairement arriver avec de la Corona s'il y en a pas de Corona au bar.
Je te suis.
Mais oui, je pense qu'ils ont une certaine liberté. J'ai terminé avec Ben. J'ai demandé, hey, t'as-tu des anecdotes? Puis là, il m'a dit, hey, je pourrais partir pendant des heures. Mais il m'a raconté deux petites anecdotes là, qu'il a vécu comme vendeur mobile dans... Puis là, j'allais dire des festivals. C'est pas vrai parce que Ben fait aussi des événements sportifs. Puis son anecdote numéro un, ben ça s'est passé dans le cadre d'un événement sportif.
Y en a un qui m'en revient en tête, justement, dans un événement sportif que je vendais de la bière, puis le gars, il m'a dit, je te donne 40$ si en dedans de 15 minutes, tu vas me chercher 4 hot dogs. Il dit, écoute, buddy, pars le timer. Je suis revenu au bout de 10 minutes avec ces 4 hot dogs. Ben, calé, qui m'a payé les hot dogs, il m'a donné 40$. Si on a une autre anecdote dans un festival à la fin du show, je me promène tout le temps, je regarde à terre, j'ai trouvé 500$.
Hein?
Cash. Ouais. Fait qu'il y en a un qui est parti pauvre, moi, je suis parti riche.
Mais c'est vrai que les gens doivent échapper toutes sortes
d'affaires. Ben oui. Mais ce qu'il me disait, c'est que lui, il fait tout le temps ça. À la fin des festivals, lui, avant de partir, il fait le tour, regarde à terre, puis ce soir-là, ça a été payant.
Ça remplit ses poches. Ouais. Hey, je trouve ça tellement intéressant. Là. Puis j'ai l'impression que ça évolue aussi parce que fut une époque où il y avait beaucoup moins de règles à ce niveau-là. Là, c'est pas mal plus encadré. T'sais, je sais, entre autres, que le Festival d'été de Québec sont un peu considérés comme des employés. Là. Tu peux pas nécessairement parler de tout. C'est plus encadré que dans d'autres événements. Mais ça doit être le fun, comme... petit job ben pour oui. comme compléter les fins de mois l'été, c'est trippant, là.
Ça, puis tu vois des shows aussi, tu sais, c'est l'occasion oui. de voir des shows, c'est l'occasion de, des fois de parler à du monde, des fois t'as pas ben ben le temps, on s'entend, là.
Avez-vous parlé de son dos potentiellement en scrap? À date, ça me fascine, ça.
Ça semble bien aller.
Hey, j'y vois que leur caisse, ah, mais c'est clair. Avec les gars, les filles, là.
Ceux qui en font beaucoup tout l'été, qui font tous les festivals, non, c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde, puis qu'il faut que tu sois en shape, là.
C'était vraiment intéressant, Max, merci. Tu continues de nous faire des petits dossiers pour le reste de la semaine?
Ben oui, il nous en reste quoi? Il nous en reste deux?
Oui, là, je t'avais donné une mission de parler à un agent de sécurité. Voyons, comment on appelle ça?
Un doorman?
Un doorman, oui, on va l'avoir, j'allais dire un barman. Un doorman.
Je fais ça à soir ou demain.
Oui, c'est qu'on
ben,
l'a.
Comme pas le choix. Oui, ben oui, j'ai déjà dit là, que j'allais parler, puis il y a ben out.
Ah, vous allez voir, il est drôle. Denis, après moi, si vous êtes déjà passé sa grande allée, vous l'avez croisé. Ça fait 26 ans qu'il fait ça. Merci, Max. On revient à Boulevard 102.1. Il nous reste un peu de temps ensemble. On va faire un très court tour de nouvelles. Le retour. J'ai failli à la tâche, les amis. Fallait que je vous gâte. Du moins que je vous mène potentiellement vers un prix. C'est-à-dire qu'on vous fait participer cette semaine pour gagner 250$ au Grand Royal Wolinac Casino qui est tout près de Bécancour. Et on est à 90 minutes de Québec. Jeux de table, machine à sous, évidemment. Vous pouvez profiter des restaurants. Il y en a deux, la nouvelle salle de spectacle aussi. Et on veut vous gâter cette semaine en vous donnant la possibilité de devenir finaliste parce que vendredi, on fait le gagnant. Le jeu est super simple, OK? 88-971-1021, je vous fais entendre un extrait et vous devez... All-in, complétez cet extrait-là. Évidemment, nom complet, numéro de téléphone dans votre texto, c'est ce qui vous permet de potentiellement être finaliste. Donc, je baisse le son et je vous fais entendre l'extrait du jour. OK, ça part. J'étais capable de rentrer un bon quatre doigts dans mon... Ah, c'est moi, ça! Je reconnaissais pas le titre.
J'ai manigancé okay. avec quelqu'un.
C'est plate parce que j'ai pas le temps d'expliquer ce